Bienvenue à toi, chère auditrice. Tu es bien sur 37.5. 37.5, c'est un programme quotidien qui voyage entre les murs. Pour toi, il traversera les espaces, passera au rouge, grillera la priorité à droite, roulera à contresens et sortira plein feu. Bref, il y aura de l'action dans le micro. D'autres intérieurs, d'autres quotidiens, 37.5, ton rendez-vous journalier qui prend la température. J'espère que tu es prêt et prête pour le voyage auditif qui s'annonce. Aujourd'hui, 37.5 s'est concerté afin de mieux guider tes petites oreilles. Ensemble, on a décidé de se pencher sur quelque chose qui nous titille toutes et tous en ce moment. La faim. La faim de quoi, vous allez me demander? À vrai dire, que ce soit fin du monde ou fin du confinement, nos imaginaires ont tendance à fortement s'échauffer. Ah, attendez. Je viens de recevoir un message. C'est bon, la réunion d'aujourd'hui est maintenue. Je vais pouvoir vous y amener. Sachez, chers auditeuristes, et ce afin de préserver mes camarades, que vous n'aurez au cours de cette émission aucun renseignement, bien évidemment, sur le lieu exact de nos réunions. C'est déjà un honneur que vous puissiez y venir glisser vos oreilles. Donc, je glisse mes chaussures à mes pieds, enfourne mon attestation dans ma poche au cas où, et toute lumière éteinte sort de chez moi. Il est 21h, l'air est doux, j'ai presque envie de me détendre, de profiter du début de l'été qui s'annonce. Non, stay focus, ok. Je rejoins d'un pas rapide le lieu de rencontre qui se trouve à une trentaine de minutes de chez moi. Sans être vraiment tranquille, mais je ne peux de toute manière pas renoncer à y aller. J'arrive, pousse une porte, tape 3 fois, descend un escalier sombre. Au sous-sol, une quinzaine de personnes sont déjà assises. Je suis arrivée à la réunion des fins du mondistes inquiets et inquiètes. On y trouve ici autant de collapsologues n'ayant pas bien digéré la théorie que des néo-chasseurs et chasseuses cueilleuses, des angoissés, des imaginatifs trop imaginatifs. Pour tout vous dire, l'idée de cette rencontre hebdomadaire a pris forme suite à un message télégramme de Silver. À peine 2 semaines après le début du confinement, il nous envoie. Les gars, je me sens pas bien. Je fais de plus en plus de rêves où je cours en faisant de la guitare poursuivi par des gendarmes à grandes dents. Ça vous dit qu'on fasse un petit cercle de paroles? À l'ancienne, vous savez. Puis, il nous a donné cette localisation. On n'en pouvait toutes et tous plus. On a foncé. Ah, d'ailleurs, Alice me fait remarquer qu'il n'est pas encore arrivé, mais je crois que j'entends sa voix dehors. Je me rapproche de la lucarne. Effectivement, il est dans le champ d'à côté avec sa guitare.
Salut les confinés! Deuxième étape des chansons tristes dans les champs. Aujourd'hui, je suis un petit peu plus loin au bord de la route sur laquelle j'étais hier. Je suis arrivé jusqu'à un arrêt de bus. C'est l'arrêt de bus où on attendait pour aller au lycée. Hein. La première année, on était 2 à prendre le bus, je crois. Après, on a été 4. Écoute, il fait meilleur qu'hier. Hein. Le temps est super clément. Les corbeaux sont toujours de la partie. C'est toujours très calme. Là, il y a une voiture au loin. Je vois des piétons, je vois des gens qui se baladent quand même. Peut-être qu'ils vont venir jusqu'à moi. Peut-être qu'on, je pense qu'ils sont un peu loin. On n'aura pas le temps de les croiser. Peut-être que j'irai à leur rencontre. Peut-être demain j'irai à leur rencontre. Le son que j'ai envie de jouer aujourd'hui, c'est un titre de Pierre Bachelet. Pierre Bachelet, on le connaît pour Les Corons, par exemple. Et là, c'est un titre de 86 qui s'appelle En l'an 2001. C'est une chanson post-apocalyptique. post-apocalyptique qui décrit voilà, l'apocalypse de l'an 2001, comme on sait tous ce qui est arrivé. Une voiture. Chanson en dos.
Sur les photographies de ce vieux caillou, 3 milliards de fourmis qui courent après nous. C'est sympa, c'est marrant, mais on sera combien? Thank you. Moi j'aurai les cheveux blancs, je serai vieux demain. Quand t'auras tes 20 ans, en l'an 2001. Petit bonhomme, tu viens d'éclore comme un ange humain. Un tout petit bout d'homme qui tend la main pour faire ses premiers pas. Petit bonhomme, traverser le salon, c'est un peu comme atteindre l'horizon. Petit bonhomme, faut jamais baisser les bras. Et on posera nos pelles à l'heure des repas. On chauffera nos gamelles sur des feux de bois. On se fera des cerfs-volants pour aller plus loin. Tu n'en sauras rien. Quand t'auras tes 20 ans en l'an 2001. Petit bonhomme, tu veux tout faire comme t'en as envie. Vivre au maximum, brûler ta vie sans savoir où tu vas. Petit bonhomme, partir sans rien savoir, c'est un peu comme marcher dans la nuit noire. Petit bonhomme, et dire que j'ai fait comme toi. On se fera des igloos, on mangera des phoques. Et on plantera des clous en plein dans le roc. On n'aura plus de gants, on aura nos poings. Après nous, c'est sympa, c'est marrant, mais on sera combien quand on aura 20 ans en l'an 2001? Sur les photographies de ce vieux caillou, c'est marrant, mais on sera combien quand t'auras tes 20 ans en l'an 2001.
Je trouve que c'est une chanson super triste et super belle à la fois. La version qu'on connaît, il y a des chœurs d'enfants derrière. C'est super cliché, mais c'est magnifique à la fois. C'est genre vraiment un truc de boy scout de la fin du monde. Et c'est pour ça que je trouve que c'est approprié. Les piétons que je voyais à l'horizon sont partis. Ils ont pris des routes adjacentes là pour aller vers le hameau du couvent ou le hameau du Charvin. Mais personne sur la route qui va de Sainte-Blandine à la Tour du Pin en passant par Montagneux. On se retrouve demain pour la suite de l'exploration du kilomètre. À bientôt les amis.
Bon, maintenant que cet hymne de Boy Scout nous a un peu détendu et réchauffé le cœur, on prend toutes et tous un siège et on s'assoit en cercle. Je crie à Silver de revenir. On va commencer. Nicolas est là. Juliette. Camille a pu venir aussi. Rosemary. Madeleine. Florène. Suzanne et Lily ont dit qu'elles nous appelleraient plus tard vu qu'elles habitent loin. Julie pousse la porte. Elle porte un lourd poste de radio suivi de Ninoa et des parents de Madeleine. Alice qui est là depuis le début me fait signe de prendre la parole. J'expose rapidement l'ordre du jour, suivi des questions que chacun et chacune m'a transmises dans la journée, dans le désordre. À quoi va ressembler le futur selon toi? Le capitalisme va-t-il s'effondrer? Comment tu te sens? Tu es rempli d'amour ou tu es pleine de haine? Les gens seront comment à la fin du confinement? Tu as peur? L'amour ressemblera à quoi? Nicolas me paraît tendu, il veut dire quelque chose.
Parmi toutes les questions que tu m'avais posées, il y avait celle-ci, est-ce que j'ai peur? Alors oui, j'ai très peur, pas forcément pour moi, même si la situation n'est pas évidente. J'ai pas forcément peur pour moi parce que j'ai la chance d'avoir un salaire qui me permette de vivre pendant un mois, mais j'ai très très peur pour les centaines de millions de personnes à travers le monde qui travaillaient au jour le jour et qui obtenaient leur salaire à la fin de la journée qui leur permettait de vivre pendant seulement 24 heures. J'ai très peur pour cela. Et je pense que les violences qui vont découler de toutes ces situations vont être catastrophiques et dramatiques, et je pense qu'on en parlera beaucoup moins que les morts liées au coronavirus. Je pense pas du tout que ce soit non plus une rupture avec le capitalisme, bien au contraire, je pense que toutes les mesures qui seront prises par le gouvernement à la fin de cette crise sanitaire seront très graves et très violentes, et je pense qu'elles seront en adéquation surtout totale avec ce que tente de mettre en place Emmanuel Macron depuis qu'il est ministre de l'économie. Et il aura, et c'est ça qui me fait peur aussi, toutes les bonnes raisons de le faire selon lui.
Juliette lui coupe presque la parole. On a un petit rituel qui est de s'imaginer comment sera physiquement et mentalement l'humain post-Covid-19. Elle souhaite nous partager ses idées du jour avec empressement.
Alors, je pense que l'homme post-confinement sera très chevelu et qu'il voudra évidemment se rendre chez son coiffeur pour remédier à une coupe de cheveux douteuse. Je pense qu'on aura une vraie difficulté à se reconnaître à base de cheveux dans les yeux et de nuque longue. Ensuite, je pense que va y avoir une catégorie de personnes qui va toujours vouloir fêter, ou plutôt trinquer, à la fin du Covid-19, évidemment, on va tous vouloir être très festifs, on va tous boire des coups et tout ça. Mais tu sais, il va y avoir cette catégorie de personnes qui va se lever en terrasse et vouloir trinquer avec toute la terrasse. Ça va être sympa, hein, mais il va le faire un peu trop, je pense. Ou un peu trop longtemps, ou un peu trop de fois dans la soirée. Il va en abuser. L'homme post-confinement va aussi être totalement désarçonné par les émotions qu'il ne ressentait plus pendant quelques mois. Donc je pense qu'il va être très très bizarre en société, qu'il va peut-être trop rire ou crier trop fort ou être trop surpris. Tu vas être un peu dans le too much à chaque fois. Et puis moi, je me languis de savoir quelle va être la phrase qu'on va répéter tout le temps un peu soulagée, tu vois, en se plaignant, parce qu'il nous faut une phrase pour se plaindre et pour être content, vu qu'on n'aura pas grand-chose à se raconter. Si quelqu'un a des idées de cette phrase qu'on aura de cesse de répéter, envoyez des messages.
On se regarde toutes et tous. Camille, qui est assise à côté d'elle et a un peu de mal à se détendre depuis le début de la réunion, prend la parole.
Je pense qu'après, ce sera la course à celle ou celui qui rattrapera le plus vite son retard.
Ok, grand silence. Camille a toujours le chic pour nous embarrasser. Maintenant, on pense tous et toutes à cette vague idée de rattraper le temps perdu. Bon, c'est au tour d'Alice. Je sens qu'elle a beaucoup de choses à dire aujourd'hui. Elle me parlait avant qu'on arrive du bouquin d'anticipation qu'elle est en train d'écrire. Et je crois que ça la met un peu dans tous ses états.
Il appuie sur le gros bouton carré du clavier principal. Un ronronnement, semblable au début d'un cycle de machine à laver, se fait entendre. Les conduits se remplissent d'eau. Et le spectacle commence. Chacune des faces en verre de la maison cubique se recouvre d'un rideau d'eau claire. Des bras articulés, ayant à leur extrémité de grosses brosses plates, se mettent en mouvement. Elles frottent et savonnent ce monstre de verre. Et à chaque fois, j'ai ce même souvenir qui revient. De moi petite, restant à l'intérieur de la voiture pendant son lavage automatique. De cette sensation psychologique de recevoir des gouttes d'eau, et de ce sentiment très particulier qui mélange claustrophobie et noyade. C'est dans ces moments-là que c'est le plus clair que nous sommes à l'intérieur. Tu peux choisir sur le clavier quelle est l'intensité du nettoyage à effectuer. En vérité, ça se calcule en quantité de fiente recouvrant les parois de ce qu'on appelle aujourd'hui maison. En fait, on se fait chier dessus à longueur de journée. C'est aussi ça qui nous rappelle les limites de notre espace domestique. Bon, c'est pas non plus comme si autrement on se laissait prendre au piège. Avec cette maison de verre, je ressens le soleil sur ma peau, je vois cet oiseau à quelques centimètres de moi, et des fois, j'ai même la sensation du vent sur ma peau. Pub à la con. On a l'impression de partager notre intimité avec les écureuils et mésanges du coin, mais en fait, eux, ils nous captent pas du tout. On est dans une maison faite en miroir sans temps, donc eux, tout ce qu'ils voient, c'est un énorme cube en miroir au milieu du terrain. Vous imaginez bien le nombre d'oiseaux qui viennent s'écrabouiller sur la maison. C'est fou, alors même qu'on est enfermé dans des cubes de verre, on arrive quand même à zigouiller des animaux. C'est comme si ça faisait plus partie de notre nature de vivre en communion avec eux. Le plus flagrant, c'était à la sortie du tout premier confinement. Le gouvernement avait mis en place le fameux système stop and go. Ça consistait à alterner des périodes de confinement et des périodes de retour à la normale. Le confinement était remis en place à chaque poussée de l'épidémie pour limiter la saturation des hôpitaux. Et ce, jusqu'à ce qu'on ait trouvé un vaccin ou atteint l'immunité de groupe. Donc tous les 15 jours, on alternait. Et c'est là qu'on a compris qu'en fait, on n'arrivait plus à cohabiter réellement avec la faune et la flore et qu'on avait fini par mettre en place une garde partagée. Sauf que là, c'était le monde qu'on partageait.
Et effectivement, cette question de confinement en pointillé, on en a toutes et tous entendu parler. Et certaines s'en réjouissent, d'autres s'en inquiètent. J'essaie de les rassurer même si je n'ai pas plus d'informations que tous. Pas facile que ces réunions ne partent pas en grande lamentation. Et même si c'est cathartique, je me demande des fois quelle idée m'a pris de présider ce club de fous et de folles. Enfin, Camille s'est détendue, je lui fais signe d'enchaîner sur une description de l'homme post-Covid-19.
Je pense qu'en sortant, tout le monde va se rendre compte que il est myope. Parce qu'on sent, que notre vision lointaine, elle travaille plus du tout. On travaille plus du tout l'horizon. Moi, je vois déjà que à plus de 5 mètres, donc la largeur de mon appart, je commence à avoir flou quand je regarde une meuble d'en face, quoi. Et par contre, j'ai une vision proche qui s'est vachement développée. C'est-à-dire que quand je regarde la peau d'une clémentine, je vois vraiment tous les détails.
On vérifie toutes et tous discrètement que notre vue n'a pas changé. Rosemary souhaite prendre la parole. Elle passe beaucoup de temps dans son jardin depuis plusieurs jours et a quelques conseils nutrition à nous partager.
Alors, pour ceux, celles qui ont un jardin, même s'il est tout petit, moi je m'ennuie un petit peu, puis j'ai besoin de voir du vert. Et donc je me suis dit que j'allais répertorier, ça fait longtemps que je veux le faire, que j'allais répertorier toutes les plantes sauvages qui poussent dans mon jardin, dans la pelouse, dans l'herbe, et voir celles qui sont comestibles. Donc il y en a quelques-unes qui sont hyper connues, comme le pissenlit. Alors le pissenlit, on le reconnaît facilement quand il y a les fleurs. Et les feuilles, elles s'appellent aussi dents de lion, parce que c'est vraiment en forme cannelée. Enfin, et ça ressemble à une dentition de lion. Donc on peut manger les feuilles en salade quand elles sont bien tendres, donc au printemps. C'est dépuratif, donc ça nettoie le foie, c'est un petit peu amer. On n'a plus trop l'habitude de manger des choses amères, mais c'est très bon pour le foie. On peut utiliser les boutons de pissenlit pour faire des sortes de câpres de pissenlit. Et ensuite, avec les fleurs, on peut faire une gelée, enfin une sorte de confiture pour mettre sur les tartines le matin. Voilà, ça c'est sympa. Ensuite, il y a le plantain lancéolé. Donc ça, j'en ai plein le jardin. Ça fait des espèces, en été, ça fait des espèces de tiges marronnasses avec des trucs au bout. Et au printemps, en fait, il n'y a que la feuille, bien sûr. Ce sont des feuilles très allongées avec des stries. Et bon, c'est pareil, ça se mange au printemps. C'est très, très, très riche en minéraux. Ça se mange au printemps quand les feuilles sont bien tendres. Et ouais, ça, c'est du plantain lancéolé. Et on peut aussi faire des sortes de... comment ça s'appelle de pesto, voilà. On peut faire un pesto avec le plantain. Donc en mélangeant avec un peu d'huile, enfin comme le pesto de basilic. Voilà, ensuite, je pensais que j'avais de l'ail des ours, de l'ail des ours dans le jardin, mais en fait, la fleur ressemble et la feuille pas trop. Donc là, il faut que j'attrape mon bouquin de botanique pour voir si c'est ça ou pas. Donc pour l'instant, je ne consomme pas, tant que je n'ai pas reconnu. Et puis, alors pour ceux qui ont la chance d'avoir un tilleul, les feuilles de tilleul au printemps se mangent en salade, c'est très très bon. Voilà, bon, en plus, moi j'ai de la mélisse aussi dans le jardin qui est venue toute seule, de la mélisse citronnelle. On peut faire des infusions avec ça, c'est la plante des femmes, la mélisse. Et puis voilà, j'ai pas fini. J'ai des pâquerettes aussi. Les pâquerettes, on les fait sécher et ensuite on les met dans de l'huile et on en fait une huile de pâquerettes. Enfin, on laisse ça macérer pendant 4 à 6 semaines et on en fait une huile pour le visage qui est anti-vieillissement. Voilà, donc il y a plein de trésors à découvrir. Il faut juste être sûr de ce qu'on consomme parce qu'il y a aussi des plantes qui peuvent être toxiques. Donc, au besoin, il y a des applis qui permettent de reconnaître les plantes. Et puis, il y a des livres de botanique, voilà, etc. Un vaste champ de recherche à portée de main.
Bon. Ça nous met pas vraiment en appétit, mais au moins son discours a l'honneur de rassurer les quelques survivalistes de la cave. Je me rends compte à ce moment-là que Silver est déjà en train d'essayer d'enlever quelques tomates du sol pour y planter du pissenlit. Ok, Alice me fait signe qu'il est l'heure d'appeler Suzanne et Lily, qui veulent à tout prix participer à la réunion, même de loin. C'est vrai que depuis quelques jours, elles ont décidé de se préparer mentalement à vivre dans une ville désertée, comme post-apocalyptique. Elle s'oblige alors tous les jours à vivre un scénario préparé à l'avance. Mon téléphone sonne, on est en ligne, elles sont en pleine simulation.
Là, on se promène dans le Bruxelles abandonné. Après le confinement, tout le monde est parti. Écoutez, la nature reprend ses droits. Plus aucun humain à l'horizon. Et à droite, il y a un enclos à cheval, mais il n'y a plus de cheval.
Ah bon ?
Ouais. Il est parti lui aussi. Il a pris sa liberté. C'est quoi ces fleurs, Suzanne ?
C'est des jacinthes des bois.
Des jacinthes des bois. Tu peux nous les décrire ?
Oh, regarde, ça fait des petites... des sortes de touffes d'herbes un peu épaisses, avec des tiges. Et ça ressemble à des jacinthes qu'on connaît. Sauf que c'est plus éparse. Ça fait pas des gros blocs de jacinthes. Mais simplement des petites clochettes.
Ben c'est très beau.
Bleu.
Et là, il y a une énorme maison de briques. En fait, elle est complètement recouverte par le lierre, ce qui fait qu'on voit qu'une sorte d'énorme masse sombre. On voit plus du tout la maison.
Non.
Il y a du lierre qui grimpe partout sur la surface et qui rentre même par les fenêtres.
C'est vraiment chelou, cet endroit. Pourtant, on est en plein cœur de Bruxelles. Hein.
Oh, c'est méga flippant.
C'est une peluche.
Il y a une peluche complètement décapitée par terre. Ah, c'est effrayant. Elle a plus de jambes et elle est toute bouffée par les mites. Oh, ça me dégoûte.
J'ai cru que c'était un vrai rongeur, hein, de base. On dirait pas un lion.
Dégueu. Et donc là, c'est de la terre battue qui a été piétinée par le cheval. Mais il n'y a plus du tout de cheval. C'est juste de la terre sèche. Et on voit encore les sabots. On entend encore son galopement. Mais lui n'est plus là. C'est son âme qui hante les lieux. Mais venez voir, il y a une cabane là.
Je vais nous amener dans ton piège.
Elle pense que je leur tends un piège, mais je veux juste leur montrer la cabane. C'est une petite cabane de bois, ficelée avec des cordes. Elle est complètement de travers. Je pense que c'était l'abri du cheval.
T'as essayé de nous amener dans ton piège, mais tu nous auras pas, Luna.
Mais ce qu'il le cheval, hein, putain.
Il y a des corbeaux noirs.
Mauvais augure. Ça, c'est du lamier pourpre. Ah non, pas du tout. En tout cas, il y a plein d'orties. On pourrait en ramasser pour faire de la soupe.
Parce qu'en ces temps où il n'y a plus de supermarché, il faut bien vivre, quoi.
Survivre.
Ça, c'est un pommier.
Ouais. Mais c'est carrément un pommier, regarde. Une belle pomme rouge.
Empoisonnée.
Suzanne a bizarrement très mal au ventre. Je pense qu'elle a été attaquée par une maladie inconnue. Elle se plie en deux. De la bave sort de sa bouche et elle rampe.
Je les remercie et coupe la communication. Camille ne me laisse pas le temps de dire quoi que ce soit. Elle enchaîne.
Donc c'est le premier jour du déconfinement. On est dans la ville. Tout le monde descend de son immeuble respectif pour aller dans la rue. Et donc on se retrouve tous ensemble et tout ensemble dans la rue. On se regarde. Et puis là, je sais pas, il y a un éclair qui passe entre nous, sans se le dire. Et on commence tous et toutes à marcher, quoi. Donc on marche. On s'en fout, le trottoir, la route, on prend tout l'espace et on s'en fiche. On marche, on est super décidé, vraiment, il y a un pas, on le sent dans notre allure qu'on est décidé. On avance, on continue, on marche pendant des heures. Si bien qu'à un moment, on arrive sur le périph', on s'en fout. Là, sans se le dire, on s'arrête pas, on traverse le périph'. Les gens dans les voitures ont des yeux... Héberlués, ils comprennent pas pourquoi il y a une foule de gens et une foule qui grossit de plus en plus parce que les gens descendent des immeubles de partout et viennent nous rejoindre. Donc les gens et voitures ont des yeux mais baba au rhum. Et là ils s'arrêtent leur voiture, ils se disent ok, on les rejoint. Donc tac, ils sortent des voitures, ça fait un bazar pas possible au milieu du périph. Ils viennent nous rejoindre. Nous la foule elle continue. Il y a une voiture, on s'en fout, on monte sur le 4x4, on redescend de l'autre côté, pas grave. On traverse le périph, on remonte, on marche encore des heures. Toi, je te vois, t'enlèves tes chaussures, tu continues quand même. On arrive, une zone industrielle, tac, on traverse le rond-point. À gauche, le Toys R Us, à droite, le Super U, on s'arrête pas, on continue. Là, moi, j'enlève mon t-shirt. On arrive sur la route départementale. Toi, je te vois, toi, t'enlèves ton petit ceinturon. Qui le maillot de corps, on enlève son pantalon. Et là, il y a des vêtements qui, en fait, jonchent le sol au fur et à mesure de notre marche et on les laisse derrière, on s'en fiche. Donc là, c'est une foule de gens nus qui marchent sur une route départementale et une route départementale qui devient de plus en plus petite parce que moi, je vois à 400 mètres, il y a un arbre et là, toute la foule le voit. Et là, on commence à trottiner tous ensemble, trottiner d'un bon pas. On trottine et d'ailleurs on voit un deuxième arbre un petit peu plus loin et là c'est plus une trotte, c'est une course qu'on va faire et on commence à courir et à tous s'élancer vers ce vert au bout en fait parce que tout est vert au bout, je vois une colline, il y a une forêt au bout donc là c'est une foule de corps qui s'élance vers cette forêt avec une cascade, je vois une colline, je vois des montagnes enneigées vraiment juste à côté, il y a un petit bout de mer au fond aussi et nous on court et le sol devient de plus en plus terreux, de plus en plus gazonneux, je décide de me plonger carrément dans cette nature là, je plonge dans le sol, dans cette terre qui est grasse et moite, et je me mets dedans, je me frotte, je mets des petits bouts de terre entre mes seins, je frottouille comme ça, et toi je te vois, toi t'embrasses un arbre, il y en a un autre qui enlace un tronc, il y en a un qui mange des petits bouts d'écorce, et toi je te vois, t'es trop mignonne, toi t'es montée à un cyprès, t'es sur la plus haute branche, et tu coupes des petits bouts de branches pour refaire un nid pour les oiseaux et que après tu vas mettre dans ton anus et puis toi là t'es dans une meule de foin et il y a des mites et des tiques dans cette meule de foin mais toi tu t'en fous, tu te laisses sucer par ces parasites et que t'appelles même pas des parasites, tu dis que tu fais corps, tu dis que c'est ton corps est un don et tu t'es dans cette meule et tu tournicotes sur toi-même, moi je suis au sol, je me frotte la tête dans la boue, la tête dans la boue, je sens un pied, tac, et en fait je vois qu'il y a tous les corps qui se rassemblent au milieu de cette prairie, on se rassemble tous,
on fait un espèce de gros tas. On sait plus de qui est le pied, de qui est la tête, de qui est l'aisselle. C'est pas grave. On a tous de la terre plein la tête. On est boueux et on se frotte mutuellement des petites mottes de terre et de d'herbe contre nos joues. On se caresse les fesses, on se caresse le nez. Moi je crache dans la bouche de mon voisin parce que le voisin du dessus m'avait fait ça également. Et en fait ma salive elle a un petit goût mi-terre. Mi-confinement, et c'est pas grave, et en fait c'est un mi-terre mi-confinement qui se déverse de personne en personne. Tac, moi j'ai un bout de pissenlit entre les dents, je m'en fous, je m'en fais du fil dentaire. On est hyper inventif et c'est une foule et un tas qui grouille et qui vit ensemble, et on a un gros tas humain qui devient de plus en plus gros parce qu'il y a des gens qui viennent de partout et ça gigote et ça vivote comme ça au milieu d'une grande prairie et on reste comme ça pendant des années.
Son engouement et la beauté de ses mots nous laissent toutes et toutes baba. On se laisse quelques minutes divaguer, flotter, entre branches d'arbres et flaques de boue. Moi qui ai toujours rêvé de danser sur une voiture comme dans La La Land, je me mets à imaginer des quartiers entiers se trémoussant sur leur Renault Mégane, Clio et autres Fiat. Je sens que l'atmosphère de la pièce a changé, que chacune et chacun est plus enclin à partager un rêve secret, une folie qu'il ou elle espère. Julie et Azalis n'ont pas dit un mot pour le moment, mais je vois que Julie tient toujours fermement son poste de radio. Elle nous dit qu'elle souhaite toutes les deux nous partager une chanson afin de réunir nos cœurs. Ok. Je fais le silence et je lance La Planète Amour.
Si.
Chacun et chacune est plongé dans ses pensées. J'essaie tant bien que mal de continuer sur un tour de cercle, voir ceux et celles qui n'ont pas encore parlé. Domino et Clairette sont venus sur les conseils de Madeleine, leur fille pro-survivalisme et débrouillarde comme pas deux. Je leur demande s'ils souhaitent témoigner à propos de comment ils envisagent l'humain post-Covid-19. Ils ont grise mine et me disent qu'ils pensent que cela durera encore des années. Ils n'imaginent pas une sortie du confinement avant au moins 5 ans. En entendant cela, tout le monde dans la salle se renfrogne. C'est vraiment pas ce qu'il faut pour remonter le moral des troupes.
Donc, comment je vois l'homme post-confinement ? On est resté 5 ans confinés brutalement. On peut sortir, on nous annonce qu'on peut sortir. Alors moi, le matin, je sors. Et la première personne que je vois, c'est la coiffeuse du salon de coiffure en bas de la maison. Et je la vois de face et moi, mon grand questionnement, c'était justement les cheveux, la poussée des cheveux, etc. Et je vois cette dame, elle est parfaite de face. C'est incroyable, elle est super bien coiffée, elle s'est certainement fait des bigoudis, etc. Et puis, elle me dit, excusez-moi, il faut que j'ouvre mon magasin parce que j'ai pas mal de rendez-vous. Elle tourne la tête pour ouvrir la serrure de sa porte. Oh, les dégâts derrière! Elle a pas réussi, parce qu'il n'y a plus de miroir, hein, donc elle a tout fait au toucher. Oh, il y a des trous, il y a des cheveux trop longs, il y a des couleurs bizarres, c'est vraiment écailles de tortue à l'arrière. Et donc, je me mets à rigoler. Et elle me dit, bon, j'imagine que vous avez pris rendez-vous aussi pour vous coiffer. Je dis, non, regardez, c'est bien. Et alors, à ce moment-là, elle aussi, elle éclate de rire parce qu'elle me dit, venez voir. Et dans son salon de coiffure qui était fermé depuis 5 ans, elle passe un petit chiffon là sur le miroir. C'était bien plein de poussière. Et je me vois, et là, ma pauvre, mais alors, des rides, des cheveux dans tous les sens, des poils, de l'hirsutisme quasiment, des poils qui sortent des oreilles. Parce qu'en fait, quand on est confiné, j'ai l'impression que ça active un peu toute cette poussée-là. Enfin, c'est affreux. Hein. Et après, quand je suis sortie du salon de coiffure, tous les gens que je croisais, c'était surtout ça, c'était de l'hirsutisme partout.
Et ben voilà, ça y est, c'est fait. Il y a 24 heures qu'on a appris que le déconfinement était annoncé, donc on pouvait enfin sortir. Donc en fait, je ne peux raconter que la première journée. Et la première journée, la première vision, la première émotion, c'est quand j'ai vu mon voisin, je l'ai guetté en fait. J'ai attendu qu'ils sortent le premier avant de sortir moi-même. Et parce qu'on s'était un peu appelé de temps en temps par téléphone, parce qu'on a quasiment des fenêtres communes de l'autre côté de la rue. Et donc, je l'ai aperçu, il était assez craintif. Alors, ce qui était rigolo, c'est effectivement sa façon d'être fringué, ça ressemblait à rien, en fait, parce que les vêtements étaient mélangés. Comme le jugement n'existait pas, n'existait plus depuis 5 ans. Mais par contre, ce qui était rigolo, c'est qu'il avait énormément de cheveux, bien sûr, et puis des lunettes. Donc c'était vraiment un autre homme, quoi. L'inquiétude, en fait, c'est que au début du confinement, il parlait de sa femme. Et là, depuis quelques années, petit à petit, mois par mois. Il m'en parlait plus et je me suis vraiment pendant un long moment posé la question ce qui avait pu se passer, ce qui s'était passé entre eux. Et là, le fait de le trouver seul, je suis de plus en plus inquiet. Donc je suis sorti à mon tour. Bien, je l'ai suivi un peu de temps et puis après j'ai pris pas d'autres rues en faisant attention de rencontrer quiconque parce que j'avais pas envie de parler, ou du moins de le faire progressivement. Et mon inquiétude qui persiste, c'est ce qui est devenu sa femme, quoi. Ce qu'ils ont pu faire, ce qui a pu se passer pour qu'il y ait un silence radio.
Nicolas, qui est resté perplexe depuis le début, demande au reste des participants et participantes comment concrètement il et elle vont faire le jour du déconfinement. Parce que lui, il a vraiment peur de ne plus savoir comment appréhender une foule. Alice, très pédagogue, prend la parole pour le lui expliquer.
Bon, en fait, tu t'insères dans cette foule, tu zigzagues, tu touches plein de corps, ton corps il touche plein de corps, mais c'est plutôt fluide le déplacement d'un corps dans une foule. C'est assez incroyable, hein, mais nos corps s'emboîtent bien pour créer un chemin. Tu fais ça doucement, sans agressivité, hein, tu te faufiles et tu vois plein de visages, plein de corps, t'en fais partie aussi, hein, tu continues, voilà, tu te faufiles et puis tu choisis cet endroit, tu décides que c'est celui-là, que c'est ici que tu seras, à 3 mètres de la scène, un peu sur la gauche. À cet instant, en fait, tu viens de choisir les 10 personnes autour de toi avec qui tu vas passer ce moment. Et pendant le concert, bah voilà, tu peux sourire aux gens, hein, tu vis le truc avec la foule. Et y a ce morceau qui passe, et il y a ce garçon à côté de toi. Vous vous connaissez pas, mais vous êtes tous les deux super heureux d'être là. Vous vous regardez, et vous êtes heureux de voir l'autre heureux. Et puis bon, bah voilà, le concert s'arrête. Et toute cette foule, ce corps, il s'écaille, mais il n'oublie pas, c'était un corps collectif en fait, un corps qui s'est formé pour ce moment-là, et puis maintenant il s'éparpille. C'était un corps temporaire. Et en fait, nos relations sociales, elles sont liées à des lieux très précis qui sont en fait des outils de sociabilisation. Et l'idée de ne plus avoir accès à ces lieux, c'est super effrayant. Parce que ça rassure vachement ton humanité de partager quelque chose de fort avec un complet inconnu. Genre, enfin, là, en ce moment, nos relations sociales, elles sont un peu particulières, quoi. Le rapport à l'autre, c'est entre peur et attraction inexpliquée. Tu croises les gens, vous reluquez un peu, comme je sais pas, si vous aviez pas l'habitude. C'est bizarre, cette ambivalence, ça crée un truc un peu limite électrique sexuel où il y a cet interdit de fricoter, mais en même temps, bon, bah, ça te donne encore plus envie de le faire. Je me demande comment vont se développer nos fantasmes et fictions sexuelles. Genre, est-ce que les films porno vont devenir des rencontres corporelles hyper minimalistes? Genre, deux individus emmitouflés, chacun derrière leur masque et leurs gants, s'apprêtent à se croiser sur un boulevard désert. Une excitation préliminaire s'installe. Ils sont sur le même trottoir, mais aucun d'eux ne semble disposé à s'écarter, afin de respecter la distanciation. La femme fait craquer le latex du gant qui recouvre son auriculaire. L'homme dégage son oreille de sa charlotte en papier. Alors qu'enfin, ils ne se trouvent plus qu'à un petit mètre l'un de l'autre, l'énergie sexuelle est à son climax. Sans l'once d'une hésitation, elle fourre son petit doigt nu directement dans l'orifice osseux de l'oreille de cet inconnu. De ce doigté s'ensuit une violente jouissance pour les deux partenaires. Une voiture de police s'approche sur le boulevard. La femme, encore agitée de spasmes, se retire de l'homme. Ils se séparent, tremblant encore de cette interaction des plus charnelles. Parce que comment on va réagir après tout ça? Est-ce que genre ce sera une libération totale, un peu explosive, parce que voilà, on aurait été isolés pendant plusieurs semaines et on va vouloir se fondre les uns dans les autres? Genre, est-ce que pécho l'inconnu à côté de toi pour lui communiquer que t'es content qu'il soit là deviendra un genre de norme sociale? Ou au contraire, on va rester plutôt traumatisé de tout ça, du rapport à l'autre, à ses miasmes? Parce que bon, c'est vrai qu'avec cette crise, genre, tu captes comment facilement, avec une poignée de main ou en se parlant à moins d'un mètre, tu te craches un peu dans la bouche. On va devenir des tarés des bactéries, des hypochondriaques de l'altérité? Ou alors, bon, bah, se dire que tant qu'il n'y a pas de virus, faut en profiter et se lécher les oreilles. Parce que, franchement, si on devient complètement flippé du statut médical de chacun, comment on va faire dans nos relations amoureuses? Enfin, tu ne pourras pas draguer, dater pendant plusieurs semaines, voir où ça va. Faudrait être beaucoup plus rapide que ça. Genre faire un choix réfléchi. Parce que,
enfin, avant même de commencer à fréquenter quelqu'un, faudra vous faire dépister, quoi, pour savoir si vous êtes pandémiquement compatible. Les gens immunisés, mais ce sera le groupe social le plus sexuellement libéré. On se rappellera tous, un peu avec amertume, ce bon vieux temps où genre une capote suffisait pour se protéger de l'autre. Et puis même, enfin, pour les générations post-Covid-19, mais genre mai 68 et toute sa libération sexuelle, mais ça sera genre une mythologie, quoi.
Bon, on a toutes et tous des frissons mêlés à des images pas très décentes de Charlotte et de gants en latex, maintenant. Je propose à Ninoa de terminer par une petite histoire, afin de laisser l'esprit de tout le monde doucement s'envoler.
Des vibrations pour communiquer. Ce qui était imperceptible auparavant. Le long de ses moustaches gluantes du jour, Planula se demande ce qui recouvrera sa peau d'humain demain. Depuis 6 mois, Hall s'administre un extrait de gonade, d'Aurelia Horita. Les méduses lunes qui pullulent en rebond translucides le long de la côte. Ces méduses ont remplacé les poissons. On le prédisait déjà en 2020. Prenez garde aux cnidaires qui nagent allègrement grâce au réchauffement des eaux. Le rejet des déchets, la surpêche, l'activité humaine encore a fait son œuvre. Planula ne s'est pas toujours appelé ainsi. Sa vie d'avant ne lui semble plus avoir d'importance. Planula plane, sévère, depuis que son corps s'est aligné sur ses êtres d'eau. Hall avait songé à des hormones de substitution, puisque son corps de naissance lui paraissait tout à fait étranger. Hall avait entendu parler des recherches scientifiques autour des cellules souches de méduses, par souci d'immortalité, ou bien les recherches sur les rétines, pour remplacer l'invention archaïque des lunettes. Planula ne voulait rien de tout ça. Planula voulait seulement comprendre ce qui lui avait toujours semblé plus clair qu'un langage du minx, celui des méduses. Les envahisseuses, comme on les appelait, dans son village envahi lui-même du minx. Depuis le début de son traitement, Col s'est concocté, son corps s'est recouvert successivement d'une texture gluante, de ramifications gélatineuses, d'antennes souples. Chaque jour est un émerveillement. Un apprivoisement. Quel point d'ancrage, quel toucher émergera, quel individu rentrera en contact avec ses vibrations. C'est comme communiquer en langage rythmique binaire. C'est les premiers pas. Hall s'est coupé de toute technologie. Le vacarme incessant des ondes vibrantes, libres, l'empêchait de percevoir la murmure de ces plantes domestiques. Hall se laisse porter pendant de longues heures sur la côte, les pieds dans l'eau. Ses adelphes, les méduses, ne lui injectent plus de poison. Planula a trouvé les sphinx. Planula espère trouver bientôt sa zone de confort. Les premiers jours étaient difficiles. Au moindre sursaut, une pustule sortait, où un poil s'allongeait. Hall savait que la strobilisation était à double tranchant. On s'était penché sur le long article expliquant la faculté des Aurelia Horita à strobiliser, c'est-à-dire décroître et retrouver leur état de polype en cas de stress majeur tel que des changements de température brusques ou de faim persistante. Ces méduses s'offraient une sorte de rajeunissement pour se fixer sur une surface immobile et se cloner à nouveau par douzaines, et se détacher ensuite progressivement les unx des autres, en méduses adolescentes, les Ephyra. Longtemps, Planula a hésité à s'appeler ainsi, Ephyra, par peur de mauvais sort ou de rester coincée constamment dans ce stade adolescent. Planula a opté pour le nom de la graine fécondée par les méduses elles-mêmes. Planula espère trouver le calme, malgré le chaos qui règne autour d'Ol. pour profiter plus d'une journée de ses longues moustaches translucides actuelles. Hall parvient même à les hisser au sommet de son front, avec entraînement. Planula rêve de montrer ses nouveaux exploits à ses copinx. Cole a écarté au début de son traitement. Les mentalités autour d'Hall sont parfois réactionnaires ou intéressées. Hall craint des persécutions, même si Hall n'est pas seul à chercher des solutions alternatives aux hormones. En effet, après la pandémie du Covid-19, son pays a continué à maintenir ses mauvais choix par fierté. Les épidémies et la mutation de leur virus ont réquisitionné tous les laboratoires pharmaceutiques pour produire des vaccins et des médicaments. Les hormones se sont faites plus rares, administrées au compte-gouttes. L'État en place voyait que les luttes queer étaient une vraie menace et ne comptait pas apaiser l'affrontement à venir. En cette période chahutée, Planula et ses amix de l'époque avaient plongé dans des recherches de substituts à ces hormones en essayant de les prélever sur leur corps. C'est ainsi que Planula a eu enfin vu l'orée de son rêve possible, celui du devenir méduse, du devenir fluide.
Dans un silence plutôt lourd, chacun se lève et range sa chaise dans un coin. Un regard pour se dire au revoir, j'attends que tout le monde soit parti puis m'occupe d'éteindre la lumière et fermer la lucarne. Je grimpe les marches de l'escalier en songeant à tout ce qu'on s'est partagé ce soir. Je tourne la clé dans la porte, partagée entre les craintes de Domino vis-à-vis de son voisin et le désir de Camille de faire l'amour dans et à la nature. Je marche en direction de chez moi en allumant une cigarette. La nuit est totalement tombée maintenant. Il ne faut pas que je me fasse choper, mais je m'en fiche. Dans ma tête, une seule chose. Qu'il est bon de pouvoir parler et s'entendre. Alors doucement, pour moi-même, je remercie un à un et une à une chaque participante.
Yo, listen up, here's a story about a little guy that lives in a blue world. And all day and all night and everything he sees is just blue, like him. Inside and outside, blew his house with a blue little window and a blue Corvette. And everything is blue for him and himself and everybody around, 'cause he ain't got nobody to listen to. I'm blue, I've been deed, I've been dying.
the trees are too. I have a girlfriend and she is so blue. Blue are the people here that walk around. Blue like my Corvette, it's in and outside. Blue are the words I say and what I think. Blue are the feelings that live inside me. I'm blue. Around, 'cause he ain't got nobody to listen to.